9 mars. Quel changement en si peu de jours! La pétaudière devient méconnaissable. D'abord, ce n'est plus une pétaudière. Les pendules marchent et les heures sonnent, réglant notre temps minute par minute, comme disait Pierre. Mais qui songe à s'en plaindre? Tout est plaisir maintenant, tout se fait sans qu'on s'en doute. Plus de scène, plus de désordre, voilà le chaos débrouillé. Tante Marguerite doit venir dans quelque temps et je suis impatiente de la faire entrer dans le vestibule. Plus de vieux manteaux à dissimuler sous la table, la banquette est libre. Défense express d'y laisser traîner le plus petit vêtement. Les chapeaux de jardin seulement sont tolérés dans le coin le moins visible du porte-manteau. Plus trace de souliers boueux sur le parquet, plus de poussière. Léonard, ce brave Léonard, j'ai envie de rire chaque fois que je le rencontre. Il me fait l'effet d'un poisson qu'on vient de remettre dans l'eau après un séjour sur la paille. Depuis longtemps, il avait jeté le manche après la cognée et faisait sa besogne de tous les matins d'un air découragé qui semblait dire « À quoi bon, dans une heure il n'y paraîtra plus ». Maintenant, il ne marche plus, il frétille. Si c'était possible, il aurait l'air plus heureux que nous. Il travaille, le sourire aux lèvres, l'air fier et important, avec cette belle ardeur qu'on ne lui voyait autrefois qu'aux rares apparitions de tante d'Aubenel. « Voyez-vous, disait-il hier à Françoise en s'épongeant le front à deux mains, après avoir dansé pendant plus d'une heure sur ses brosses, je passerai les nuits plutôt que de ne pas tenir la maison à son goût. » « Je crois bien, quand il parle de Mademoiselle Evin, il semble prêt à se prosterner. » C'est que, dès le premier jour, il a entendu du salon un petit discours que ma reine nous adressait dans le vestibule en nous faisant ranger le fameux porte-manteau. Nous l'appelons ma reine parce qu'elle était la filleule de maman et que nous l'aimons trop pour l'appeler mademoiselle. Dans ce discours, donc, ma reine, à la grande satisfaction de Léonard, bien certainement, nous rendait responsable de la mauvaise tenue de la janière. Au premier abord, je ne trouvais pas cela absolument juste et j'essayais de protester. « Pourtant, dis-je, ce n'est pas notre affaire de balayer et d'épousseter la maison. » « Non, sans doute, mais c'est votre affaire de salir le moins possible ce qui est propre, de déranger le moins possible ce qui est rangé, d'encombrer le moins possible de vos affaires, tous les meubles et tous les coins. Vous sentez-vous la conscience bien à l'aise sur tous ces points ?» Trouvant son opinion déjà plus juste, je n'osais rien répondre, mais elle répondait pour nous. « Non, n'est-ce pas ? Vous apportez avec la même indifférence la boue ou le sable du jardin dans le vestibule ou l'escalier, voire même sur le tapis du salon. Votre parapluie vous gêne, c'est bientôt fait, le voilà sur une table ou sur une chaise. Vous quittez votre chapeau, le voilà sur la banquette, votre manteau par-dessus, et vous retournez jouer et courir le cœur léger. J'ai aperçu, en rentrant dans le salon pour la première fois, une cravate bleue au fond d'un cache-pot dans un coin. J'en avais déjà rencontré une rouge quelque part, sous l'escalier peut-être, avec une paire de gants. « Une cravate bleue !» cria Pierre vivement. « Elle me manque depuis plus de 15 jours. Je ne pouvais pas remettre la main dessus. »« Ce n'est pas étonnant, » reprit ma reine au milieu d'un rire général. « Je vous la rendrai, et la rouge aussi. Mais avec ce joli système, comment voulez-vous qu'un domestique suffise à la besogne? C'est impossible, il y perd sa peine. » Léonard devait rire de joie dans sa barbe. « Et vous voyez bien que c'est votre faute si la maison n'est pas tenue comme elle devrait l'être. » « Aussi, » reprit ma reine gaiement, « après le discours, la réforme, ou bien que désormais, chaque grain de poussière retombe sur vos têtes coupables. » « C'est alors que nous avons entrepris les grands travaux de déblayage au rez-de-chaussée. » Et les contraventions seront punies, non pas de mort, comme le proposait Pierre, mais de différentes peines, suivant la gravité du cas. Ce n'est pas tout, ma chambre a eu son tour. Hier, déjà, ma reine avait jeté, en passant, un coup d'œil dans mon domaine, mais Françoise et Léonard en sortaient, et c'était à moitié présentable, tandis que ce matin, là, toute seule, je rougis encore de l'état où elle était quand ma reine y est entrée. Les couvertures de mon lit, rejetées de côté en gros paquets, le bout de mon drap traînant à terre sur le tapis, un de mes souliers sur la commode, l'autre sur la table, ma robe et tous mes effets en monceau sur une chaise, mon peigne et ma brosse sur une autre, avec une serviette de toilette toute mouillée par-dessus, mon chapeau pendu par le caoutchouc à l'espagnolette de la fenêtre, dans un coin mon parapluie, mon ombrelle et deux grands bâtons à pierre, par terre des chaussures renversées, de vieux cahiers, des chiffons, mon panier à ouvrage avec son couvercle à moitié détaché, c'est le plus souvent l'aspect de ma chambre, et je ne m'en suis jamais beaucoup soucié. Mais aujourd'hui, devant elle, je n'oublierai jamais son premier mouvement quand elle est entrée. C'était de l'horreur. Elle a d'abord reculé comme si le courage lui manquait, mais prenant une grande résolution, elle s'est avancée, a refermé la porte et s'y appuyant faute de chaise, elle a regardé autour d'elle. « Oh, Thérèse !» Elle ne dit pas autre chose, mais je me sentis si honteuse que je n'osais pas rencontrer ses yeux et, cherchant une excuse, « Ma chambre n'est pas faite, » murmurai-je sottement. « C'est visible, mais faite ou non, comment avez-vous pu la mettre dans un tel état et comment pouvez-vous vivre au milieu d'un pareil désordre ?»« Françoise va ranger tout cela, » repris-je tête basse. « Françoise, mais ce n'est pas son affaire. Avez-vous oublié déjà mon beau discours ? Vous êtes bien assez grande pour mettre vous-même votre chambre en ordre. »« C'est si ennuyeux !» « Ennuyeux ?» répéta-t-elle, l'air étonné. Puis, faisant un pas vers la commode, elle prit mon soulier délicatement et riant. « Vous avez pourtant sur vos meubles un choix de bibelots assez curieux, » dit-elle. « J'ai vu dans ce genre, au musée de Cluny. »« Oh, ma reine, je vous en prie, je l'avais posé là seulement parce que... pour... parce que son camarade ornait déjà la table, n'est-ce pas ?» « Parce que le lacet est cassé, » repris-je d'un ton larmoyant. J'ai cherché partout un galon noir et je montrai du doigt mon tas de chiffons, mais je ne peux pas en trouver. Je n'ai rien de ce qu'il me faut et c'est en cherchant toujours que je bouleverse tout et que tout se met en désordre. » Elle ne riait plus. « Pauvre petite Thérèse, » dit-elle doucement, « vous ne manquerez plus de rien, je vous le promets. Mais vous me donnez là une mauvaise excuse. » « Si vous ne gâchiez pas tout ce qu'on vous donne, vous auriez tout ce qu'il vous faut. Si vos affaires étaient en ordre, vous sauriez où les trouver tout de suite. Vous n'auriez jamais besoin de tout bouleverser pour les chercher. » Conclusion, le désordre donne bien plus de peine et d'ennui que l'ordre, et vous ne savez pas ce que vous dites. Je la regardais. Elle le sait bien, elle. Même en robe de chambre, elle paraît en toilette. Elle se coiffe dès le matin et jusqu'au soir, ses cheveux ne se dérangent pas. Comment s'y prend-elle? Ses robes n'ont pas une tache, pas un accroc. J'étais là quand elle a ouvert ses malles. En 2 heures, tout a été déballé, secoué, rangé, les caisses vides emportées au grenier, ses bibelots placés sur le vieux bahut et sur les tables, ses bibelots placés sur le vieux bahut et sur les tables. La chambre est transformée. Elle est bien plus jolie maintenant que la chambre d'honneur, et je suis sûre que tante Marguerite l'habiterait avec plaisir. Je pensais à tout cela en la regardant, et je me répétais, comment s'y prend-elle, si elle voulait m'apprendre, si elle voulait m'aider un peu? Je n'eus pas besoin de le lui demander. Toujours elle devine ce que je pense pour venir à mon secours. Depuis un instant, elle m'examinait. Alors, se mettant à rire, « Vous avez l'air très repentant, » dit-elle. « Cela me donne bon espoir. Trouveriez-vous vraiment trop ennuyeux de ranger votre chambre avec moi ?»« Avec vous, je rangerai la maison depuis le grenier jusqu'à la cave et ce ne serait pourtant pas un petit travail, je vous assure. »« Nous y viendrons, » dit-elle, « mais commençons par le plus pressé. » Elle m'aida à m'habiller et ce fut un peu long car elle voulut absolument recoudre tous les cordons, crochets et boutons. Puis elle me coiffa elle-même et ce fut encore plus long. Depuis que Mélanie n'a plus le temps de s'occuper de moi, j'arrange mes cheveux comme je peux et ce n'est jamais bien. Ils étaient tout emmêlés et la pauvre marraine eut bien de la peine à les débrouiller pour faire ma tresse. Elle ne me gronda pas pourtant. Elle comprend bien que ce n'est pas ma faute si je me coiffe mal. J'ai trop de cheveux et personne pour m'aider et m'apprendre. Mais elle, quelle peine elle se donnait pour moi! « Oh, si j'avais eu une grande sœur comme elle, complaisante et bonne !»« Si Marie !»« Mais je ne veux pas penser à cela, je ne veux pas faire de comparaison. » Quand je fus prête, ma reine me fit mettre un grand tablier. « Maintenant, » dit-elle, « à l'œuvre. » Elle ne me fit grâce de rien. Les tiroirs, les cartons, les planches, tout y passa. À présent, mes robes s'étalent dans l'armoire comme une rangée de belles dames, mon chapeau est dans son carton sur une planche, mon ombrelle et mon parapluie dans le dernier tiroir de la commode, chacun dans sa maison. Autrefois, je n'avais jamais assez de place, maintenant j'en ai de reste. Je commençais à mettre en belle pile mes livres et mes cahiers sur la table quand Pierre frappa à ma porte. « Thérèse » cria-t-il, « que deviens-tu? Je t'attends depuis !» Mais, étant entré, il s'interrompit brusquement, me regarda, et, stupéfait, « Tu ranges ? » fit-il. Puis, apercevant ma reine, « Ah, je comprends, toujours la réforme !» s'écria-t-il en riant. « Ce n'est pas une petite affaire ici, dites ma reine !»« Et chez vous ? » demanda-t-elle en riant aussi. Il rougit un peu. « Oh, chez moi, c'est un vrai Capharnaüm. Je n'ai jamais le temps de ranger. » Elle lui jeta un regard malicieux. « Vraiment, mais je vous entends jouer dans le jardin tous les matins avant l'heure des devoirs. » Pierre ne put s'empêcher de rire et, faisant une grimace, « Pincez, dit-il, mais avouez, ma reine, que ce serait dur de passer toute sa récréation à mettre ses affaires en ordre. » « Très dur, je l'avoue. Si dur que je ne vous demanderai jamais ce sacrifice, parfaitement inutile d'ailleurs. »« Ah ! » dit Pierre triomphant, « nous finirons par nous entendre. »« Je l'espère. Mais attendez, si je vous demandais cependant un petit sacrifice. »« Aïe ! » dit Pierre gaiement. « 10 minutes, par exemple, de cette chère récréation, me les donneriez-vous ? » Pierre la regarda un instant avant de répondre. « Le demandez-vous sérieusement, ma reine ?»« Très sérieusement. »« Eh bien, je vous les donne, » dit-il sans rire. « Je prendrai tous les matins 10 minutes pour ranger ma chambre avant de la quitter. Est-ce cela que vous voulez ?»« C'est cela et je vous remercie. Vous êtes un bon petit garçon. » »« Oh !» fit Pierre tout embarrassé. « Ne me remerciez pas. Si vous m'aviez demandé toute ma récréation, je vous l'aurais donnée tout de même. Je n'aurais pas pu vous la refuser. » Sans rien dire, elle embrassa Pierre, puis, se tournant vers moi, « Et vous, Thérèse, dit-elle, signez-vous aussi notre pacte ?»« Des deux mains, m'écriai-je. Mais croyez-vous qu'en 10 minutes ?»« C'est plus de temps qu'il ne vous en faudra si vous remettez chaque chose à sa place après vous en être servi. Essayez, c'est une si bonne habitude à prendre. » Pour le premier jour, cependant, j'offris mon aide au pauvre Pierre. Il ne s'en serait jamais tiré tout seul. « Ouf !» dit-il quand ce fut fini. « Quelle corvée ! J'espère n'avoir pas souvent à la recommencer. »« Jamais » criai-je vivement, « puisque tu rangeras tout à mesure. C'est convenu, tu sais. » Pierre hocha la tête. « Sans doute, dit-il, mais ce n'est pas si facile que tu crois de prendre de bonnes habitudes, et j'ai peur que malgré nous... » « Pourtant, repris-je un peu inquiète, tu essaieras, dit Pierre, pour lui faire plaisir. Elle aime tant l'ordre et la propreté. Elle m'a dit qu'elle ne pourrait vivre heureuse dans une maison mal tenue. »« Ah !» dit Pierre avec intérêt, « elle t'a dit cela ? Alors il faut essayer coûte que coûte, quand cela prendrait 10 fois plus de temps, quand ce serait encore 10 fois plus ennuyeux. Surveille-moi, Thérèse. » Là-dessus, j'éclatai de rire. « Mon pauvre Pierre, m'écriai-je, tu t'adresses bien. Non, non, j'ai trop à faire chez moi pour me mêler de corriger les autres. C'est avec ma reine qu'il faut arranger. Demandons-lui de venir inspecter nos chambres une fois par semaine, le samedi par exemple. » C'était une bonne idée. Ma reine a accepté le titre et les fonctions de dame inspectrice que Pierre lui a respectueusement proposé, mais avec une réserve. « Le jour de l'inspection ne sera pas fixé d'avance, dit-elle. Je demande le droit de tomber chez vous à l'improviste. »« Accordé !» cria Pierre plein d'ardeur. « Cela va bien mieux nous tenir en haleine. » Me voilà très curieuse de juger maintenant de nos propres progrès. 11 mars. Ce n'est plus Marie qui préside la table. Dès le premier jour, cédant de bonne grâce le pas à ma reine, elle a repris son ancienne place. Léonard apporte un peu plus de cérémonie dans le service. Pierre ne fait plus de grimaces et Maurice apprend à se tenir mieux, mais c'est le seul changement dans nos repas et l'intimité n'y perd rien. Nous sommes plus gais, plus bavards encore que par le passé, et je vois avec plaisir que Pierre conserve son bel appétit, très menacé, prétendait-il, par l'attente du dompteur sous les traits de Madame de Lorme. Ce matin, quand il est descendu pour déjeuner, il était si pomponné, si bien cravaté, que Maurice a eu un moment d'extase. « C'est fait ? » a-t-il demandé en le montrant du doigt. « Oh oui, Maurice, c'est fait tous les jours ici maintenant, et nous serons tous les jours plus heureux. » En entrant à son tour dans la salle à manger, Marraine eut aussi un mouvement de surprise devant la cravate bleue, puis elle se tourna de mon côté, et voyant que tout était en ordre dans ma toilette, elle sourit avec satisfaction. « Que vous êtes jolie, que vous me semblez beau !» fit-elle gaiement. « C'est d'autant mieux que j'ai un projet pour tantôt. Thérèse doit une visite à monsieur le curé pour le remercier de ses leçons et l'avertir que je vais le remplacer. Et si monsieur du Corbeau veut bien être notre cavalier, nous irons aujourd'hui avec lui. » « Quelle chance ! » cria Pierre, flatté et ravi. « Nous prendrons la petite charrette, » m'écriai-je en même temps. « Et pour revenir ? » « Savez-vous conduire, ma reine ?»« Assez pour mener Biquet, » dit-elle en riant, « mais je vous laisserai ce plaisir. » Léonard fronçait ses gros sourcils. « Une voiture à âne pour Mademoiselle Evin ?» Il jugea sans doute cette proposition très impertinente, car prenant la parole, « La charrette n'est pas très confortable, » dit-il d'un ton respectueux. Mais le remerciant d'un de ses jolis sourires, ma reine l'eut bientôt rassurée. « N'importe, dit-elle, en Bretagne, j'ai circulé bien souvent en carriole, même l'hiver. »« Ah, la chère marraine, bien sûr, elle n'est pas princesse, et je parierais bien qu'elle n'a jamais ses nerfs, elle, quelque temps qu'il fasse et quoi qu'il arrive. » Elle s'était chargée de 4 ou 5 courses pour Mélanie et Françoise, aussi sommes-nous partis tout de suite après le déjeuner, tous les trois, gais comme des pinsons et Biquet fier comme un roi. Je croyais faire mes adieux d'élève à monsieur le curé, mais il a décidé avec ma reine qu'il me ferait subir un examen général à la fin de chaque mois. Elle lui a demandé comme une faveur de diriger encore mes études, parce que, a-t-elle dit, elle n'a pas l'habitude de l'enseignement et qu'elle craint de faire fausse route. Monsieur le curé paraissait, au contraire, très rassuré. « Ne soyez pas si modeste, a-t-il dit en souriant, je sais à quoi m'en tenir là-dessus. » Dans sa dernière lettre, qui m'annonçait votre arrivée, Madame Daubenel me raconte bien des choses, et ses enfants doivent bénir la Providence qui leur donne une amie comme vous. Vous leur ferez beaucoup de bien, et ce sera votre récompense. Ma récompense, s'écria-t-elle, mais je n'ai droit à aucune récompense. J'aime beaucoup la campagne et j'adore les enfants. Deux bonnes raisons pour moi d'être très heureuse à la Janière. Et là-dessus, elle se sauva, sous prétexte d'aller voir le jardin que Mademoiselle Guélec avait offert de lui montrer. Moi, je n'étais pas convaincue. Je me rappelais trop bien la lettre de tante Daubenel pour me laisser prendre à ces deux belles raisons, et je vis bien que monsieur le curé était aussi incrédule que moi. « Ce n'est pas pour cela qu'elle est venue, n'est-ce pas, monsieur le curé ? » dis-je aussitôt que ma reine fut sortie. « Nous savons bien que c'est par dévouement, seulement elle ne veut pas le dire parce que... » Je m'arrêtai, embarrassé, et monsieur le curé sut, mieux que moi, expliquer ce que je pensais. « Parce qu'elle a la vraie abnégation, dit-il en souriant, l'abnégation aimable, parce qu'elle sait s'oublier pour les autres de tout cœur, sans laisser voir l'effort du sacrifice. « Mais croyez-vous, monsieur le curé, qu'elle puisse être cependant heureuse avec nous ? Cela dépendra de vous, mes enfants. » Je compris ce que monsieur le curé voulait dire, et Pierre aussi. « Mais je n'ai pas peur. Cela nous est si facile d'être sages depuis que ma reine est là. » Monsieur le curé nous lut dans un petit coin la lettre de tante Marguerite. On ne s'en douterait pas à la voir si simple et si gaie, sans lunettes et sans pointe de dentelle, mais ma reine est une savante. Elle a ses diplômes et je suis sûre qu'elle en remontrerait à Madame de Lorme. Tante Marguerite explique en détail à monsieur le curé tout ce qu'elle sait faire. Comment c'était-elle qui dirigeait, depuis des années, la maison de son grand-père, et combien elle a été dévouée pour lui quand il est devenu infirme, ne voulant jamais le quitter, parce qu'il ne se trouvait bien soigné que par elle. Quand M. le curé referma la lettre, je la lui demandai pour la montrer à Marie. Il faut qu'elle connaisse ma reine aussi bien que nous. Cette fois, en remontant dans la petite charrette, je n'enviais pas le sort de Pierre comme le jour de ma première leçon. Je ne trouvais plus du tout triste de rentrer à la Jarnière. Ma reine ne voulait d'abord pas conduire, mais je la suppliai de prendre les rênes un instant pour flatter Biquet, et elle y consentit à la fin. Biquet, reconnaissant, prenait sa plus belle allure et avait l'air très fringant. Quand le docteur nous croisa dans sa voiture sur la route, il nous regarda d'un air intrigué qui m'amusa beaucoup. « Oui, monsieur le docteur, c'est lui-même, le dompteur que vous plaignez tant d'avance. Vous avez pu voir qu'il ne paraissait pas si malheureux après tout, et que nous nous entendions assez bien, Dieu merci. » 13 mars. Nous étions trop calmes, cela ne pouvait durer, et nous voilà en pleine émeute. Quand je dis « nous », c'est par habitude, car cette fois, Pierre seul est en cause. Pierre et son chapeau. Ce pauvre chapeau a fait tout l'hiver un rude service. Qu'il pleuve, neige ou grêle, Pierre ne prend pas de parapluie, et pour cause. Depuis longtemps, le sien n'a plus que 3 baleines et la moitié du manche, donc il s'en passe. Il s'abrite comme il peut, en baissant les bords de son chapeau, le lançant rentrant au porte-manteau, pour le reprendre, sec ou non, quand il en a besoin, et cela dure depuis le commencement de l'hiver. Aussi le feutre est-il un peu fatigué. « Raison de plus pour le ménager, » dit Mélanie. « C'est possible. » Par malheur, Pierre n'a pas su se faire ce raisonnement. Hier, un chien étranger est entré dans la cour à la poursuite d'une des poules. Aussitôt, voilà Pierre en chasse, criant, gesticulant des bras et des jambes pour effrayer le braconnier. Lyon se serait sauvé à toutes pattes, je le connais, mais ce chien-là était un brave. Malgré cris et signaux, il se jette sur la poule et ne veut pas lâcher prise. Pierre n'avait ni bâton ni fouet, mais il avait son chapeau, malheureusement. Attrape ! Et voilà le chapeau à travers la cour. Le chien détale en hurlant, la poule se secoue, saine et sauve, et Pierre court fièrement reprendre son bien. J'arrive sur ces entrefaites pour féliciter le vainqueur, quand je le vois faire tout à coup une trépiteuse grimace. Son doigt venait de passer par une fente entre le bord et la calotte du chapeau. « Ce n'est rien, » dis-je vivement, « je vais l'attacher avec une épingle, cela ne se verra pas. » Et voilà Pierre tout consolé. Mais aujourd'hui, la crevasse s'est agrandie beaucoup et Pierre a déclaré qu'il lui fallait un autre chapeau. Nous étions seuls. Ma reine, qui a fait la connaissance de nos aimables voisins, déjeunait au petit guet avec Marie. Pierre a donc été forcé de s'adresser à Mélanie. Comme toujours, Mélanie s'est fâchée, l'a grondée pour son manque de soin, et j'ai vu, dès le commencement, que cela finirait mal. Les lèvres de Pierre remuaient pendant le sermon, et c'est un mauvais signe. « Vous usez le double de ce qu'usent les autres enfants, » dit Mélanie, « parce que vous ne soignez pas vos affaires. » C'est vrai, car ma reine nous le dit aussi. Mais quand ce serait encore plus vrai, Pierre n'avait pas moins besoin d'un autre chapeau et Mélanie refusait de lui en acheter un. « Voilà l'hiver fini, » dit-elle, « je raccommoderai celui-là et vous pourrez le porter quelque temps encore. » Là-dessus, Pierre, déjà très agacé, entra dans une de ses grosses colères et il commença à crier que papa ne lui permettrait certainement pas de sortir avec un pareil chapeau, qu'il ne défendait bien sûr pas de nous acheter tout ce qui nous était nécessaire. Et de quel droit, alors, Mélanie s'y refusait-elle? Et pourquoi étions-nous toujours habillés comme des mendiants? Il criait de plus en plus. Ses veines se gonflaient sur ses tempes. Il était très rouge et ses yeux brillaient tellement que je me sentis trembler. D'ailleurs, conclut-il enfin, hors de lui, vous n'êtes pas la maîtresse ici et je ne remettrai pas une seule fois cette vieille loque sur ma tête. C'est ce que nous verrons, dit Mélanie. « Vous allez le voir tout de suite. » Il prit son chapeau à deux mains et crac, la calotte vola d'un côté et le bord de l'autre. Il y eut une seconde de silence. Pierre et Mélanie se regardaient et ils se faisaient des yeux si méchants que j'eus peur. « Va-t'en » criai-je en poussant Pierre. J'aurais voulu l'excuser, les calmer tous les deux, mais c'était bien vilain ce mouvement de colère et je ne trouvais rien à dire. Enfin, je balbutiai. « Vous savez, Mélanie, quand il est en colère, il ne sait plus ce qu'il dit et ce qu'il fait. mais vous lui achèterez un chapeau et... » Mélanie m'interrompit. « Je ne suis pas la maîtresse, dit-elle d'un ton glacial. Que M. Pierre écrive à son père, et quand j'en recevrai l'ordre, j'achèterai un chapeau. » Et elle sortit majestueusement. Qui fut Penaud ? C'est M. Pierre. « Le voilà bien avancé, me dis-je en moi-même. » Mais je me gardais bien de rien dire tout haut. Il n'était plus en colère, mais il avait encore cet air moitié vexé, moitié honteux, qu'il a toujours après ses mouvements de violence, et il ne fait pas bon lui parler dans ces cas-là. Je me baissai, et ramassant les deux lambeaux de feutre, je les ajustai l'un à l'autre pour voir s'ils pouvaient être recousus. Mais Pierre devina mon intention. « C'est inutile, dit-il d'un ton brusque, je ne le remettrai pas. » Alors je me risquai timidement à le raisonner. « Mais Pierre, tu n'en as pas d'autre, tu ne veux pas, tu ne peux pas sortir nu-tête. »« Pourquoi pas, dit-il de son air le plus entêté. Je le ferai, au contraire, pour que tout le monde sache bien où nous en sommes réduits et de quelle façon Mélanie nous traite. J'irai à ma leçon sans chapeau, aujourd'hui même. » Pierre était injuste. Ce n'est pas la faute de Mélanie s'il a jeté son chapeau sur le chien, à ses risques et périls, et s'il a déchiré ensuite dans ce bel accès de fureur. Mais ce n'était pas le moment de le lui démontrer. « Oh, Pierre, dis-je seulement, je t'en prie, pas d'extravagance. Monsieur le curé te demandera des explications, et, tu sais, mon pauvre Pierre, il ne t'approuvera pas, tu peux y compter. » Il me regarda piteusement. Que veux-tu que je fasse pourtant? Je ne peux pas porter un chapeau en deux morceaux, la calotte sur la tête et le bord autour de mon cou comme un collier. Je faillis éclater de rire à cette idée. Mais il avait l'air si malheureux que je fis mon possible pour rester sérieuse. Pourquoi l'as-tu déchiré? Fis-je doucement. Pierre haussa les épaules, mais il ne put s'empêcher de rougir un peu. Cette question, fit-il à demi-voix, tu sais bien que j'étais en colère. Ce n'était pas une très bonne excuse, pourtant je n'osais pas le lui dire, de peur de le fâcher encore. Du reste, je crois qu'il se faisait intérieurement la même observation, car le rouge monta tout à coup jusque dans ses cheveux. Mais refusant comme toujours d'avouer ses torts, « Pas de morale, dit-il vivement pour m'empêcher de parler. Ce qui est fait, je n'ai plus de chapeau, je m'en passerai, voilà tout. » C'est ce que je ne voulais pas, justement, car il avait beau faire le fanfaron, je savais qu'au fond, cela devait l'ennuyer encore plus que d'avoir à mettre un chapeau raccommodé. La colère est mauvaise conseillère. Pierre devrait bien méditer cet exemple d'écriture que nous avons copié si souvent. Tout en le méditant moi-même, je courus à la recherche du brave Léonard. C'est toujours lui qui nous tire d'embarras, mais dans cette circonstance, je doutais un peu de son pouvoir. « C'est un cas désespéré, me disais-je. Mélanie ne cédera pas et Pierre ne voudra pas céder non plus. Comment sortir de là ?» Cependant, hurrah pour Léonard. Il en est sorti victorieusement. Sans m'attendre, il a décidément bien mauvaise tête, mon pauvre frère. Pierre partait pour sa leçon sans chapeau, comme il l'avait dit, et nous voilà courant après lui, Léonard et moi, l'appelant à l'unisson. Mais comme il ne voulait pas se retourner, je criai enfin de toutes mes forces « Pierre, attends-nous, voilà un chapeau !» Cette fois, non seulement il se retourna, mais il revint sur ses pas au-devant de nous. « Voyons-le, dit-il. » Rien au monde ne le lui ferait avouer, mais il était ravi de notre intervention. « C'est votre chapeau de paille de l'été dernier, dit Léonard en le lui mettant. Fort heureusement, je le gardai sous clé, le trouvant encore bon. « Comme il est brun, vous pouvez très bien le porter, le soleil va devenir chaud. »« Je crois bien, s'écria Pierre en riant, et me voilà à l'abri des insolations et des rhumes de mars. »« Merci, Léonard, vous avez toujours de bonnes idées. Ce n'est pas comme Mélanie. » Puis, ôtant son chapeau pour l'examiner, « Allons, dit-il, riant toujours, la saison s'annonce bien, je vais ramener les hirondelles. » Je me mis à rire aussi. J'étais contente de voir la question si heureusement résolue. Avant de nous quitter, Pierre m'embrassa. C'était sa façon de me faire des excuses, car il sait combien ses excès de colère me tourmentent et me rendent malheureuse, et c'est le seul moment où j'ose le gronder un peu. « C'est égal, Pierre, dis-je tout doucement. Sans Léonard ?»« mais il n'était pas si apaisé que je me l'imaginais, car il m'interrompit brusquement. « Sans Léonard, répéta-t-il, et sans toi, je quitterai la maison, je me sauverai la nuit. Je ne sais pas ce que je ferai. Tais-toi, ne me parle plus de tout cela, ne me parle plus de Mélanie. Je deviendrai enragé, je commence déjà. » Et là-dessus, il partit en courant. Nous revenions lentement à la maison, car nous étions essoufflés, Léonard et moi. Je pensais à ce qui venait de se passer, et une crainte me prit tout à coup. « Léonard, dis-je, croyez-vous que Mélanie se fâchera ?»« Pourquoi, mademoiselle ?»« Oh, parce que j'ai donné un autre chapeau à M. Pierre. Ne vous inquiétez pas de cela, je m'en arrangerai avec elle. »« Mon pauvre Pierre, je ne veux pas l'excuser. Je sais qu'on ne peut rien tirer de lui quand il est dans ses mauvaises quintes, mais il est toujours si exaspéré contre Mélanie que la moindre chose le met hors de lui. Je serais bien contente si nous n'avions plus jamais affaire à elle. » Si ma reine nous prenait tout à fait. Autrement, qu'allons-nous devenir? Ma reine n'aimera plus Pierre, elle le croira méchant, et alors elle sera forcée de se montrer sévère pour lui. Mais nous aurons encore de sottes histoires, j'en ai peur. »